Спасибо вам за поддержку. Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации.
France Inter, 18-20 спécial.
Et привет, alors, qui veut dire bonjour, pour tout vous dire, plutôt bonsoir, mais bonsoir c'est beaucoup plus compliqué, donc je ne m'y risquerai pas ce soir, peut-être à la fin de l'émission, allez savoir, bienvenue à Moscou, bienvenue en Russie, c'est 109 millions d'électeurs, c'est 9 fuseaux horaires, bienvenue dans ce pays continent qui dans deux jours, donc dimanche, va voter sans surprise, ça on le sait, pour un Vladimir Poutine qui n'a pas eu besoin de faire campagne ou presque, mais c'est ça aussi finalement qui intéresse nos regards d'occidentaux, une élection sans suspense et sans passion, mais alors qu'est-ce qu'ils veulent ces Russes? Comment vivent-ils? Est-ce qu'ils sont résignés ou finalement heureux de s'en remettre à un seul homme? À quoi elle ressemble la Russie de Vladimir Poutine? C'est ce qu'on va essayer d'explorer ensemble depuis ce formidable hôtel Métropole à deux pas de la plage rouge qui est illuminé comme il se doit puisque nous avons deux heures de plus que chez vous à Paris et qu'il fait déjà grandement nuit. La Russie est vaste, c'est le moins qu'on puisse dire, mais on a deux heures et profitons-en. Bienvenue.
France Inter en direct de Moscou. 18-20 spécial. Fabienne Synthèse.
Et la première escale, elle est juste en bas de chez nous. Tiens, vous l'entendez passer? C'est le métro. Juste en bas de chez nous, là, en bas de l'hôtel Métropole. Un petit tour dans ce métro que vous fréquentez, évidemment, Dimitri Boulba. Bonsoir.
Bonsoir. Dobry vecher, tout à l'heure.
Voilà, oui, oui, je ne sais pas si je saurais, mais merci de me l'avoir redit. Vous êtes un pur moscovite, Dimitri.
Exactement.
Né à Moscou, vivant à Moscou, qui ne veut pas quitter Moscou.
Ah, mais tout à fait. Je suis né à Moscou et j'ai aucun envie de quitter. J'adore notre ville.
Ça veut dire que c'est une ville où il fait bon vivre. Au-delà de tout ce qu'on peut dire et entendre sur la Russie, Moscou, une ville où on aime vivre.
J'en suis absolument persuadé. Et c'est pas uniquement mon cas. Je pense que les gens aiment beaucoup Moscou, bien que ça soit impossible qu'on ait pas de difficultés, etc.
Comme tout le monde, vous avez 35 ans, vous êtes guide touristique, vous avez une petite agence, on y reviendra tout à l'heure. Moi, il y a une chose qui me frappe quand on arrive dans ce Moscou. On est jeudi, l'élection c'est dimanche. Ça sent pas l'élection ici dans cette ville. C'est normal ou pas qu'on sente rien?
Ça, on le sent mieux comme ça de l'extérieur. Quand on arrive, on peut comparer avec d'autres pays. Peut-être à Paris, ça sent au chaque carrefour. Chez nous, c'est plus ou moins standard. Je pense que c'est peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intrigues.
Ça veut dire pas, mais il n'y a pas d'affiches, il n'y a rien de tout ça dans les rues de Moscou. C'est pas ce qu'on croise, en fait.
Oui, il n'y en a pas beaucoup. Mais tout le monde reçoit des SMS. Moi, j'en ai reçu 4 aujourd'hui. Venez voter.
Venez voter. Est-ce que c'était différent en 2012, Dimitri? Est-ce qu'il y avait plus d'effervescence? Est-ce que vous sentiez ça ou pas? Il faut rappeler quand même aux gens qui nous écoutent qu'il y a eu des manifestations, il y a eu tout ça. Il y avait une autre ambiance en 2012. Est-ce que ça se sentait plus, finalement? Ou pas?
Oui, l'ambiance était tout à fait différente, mais je pense que c'était plutôt dans les têtes des gens parce que effectivement il y avait des manifestations, il y avait une sorte de gens qui se disaient que tiens on va changer quelque chose. Il y avait un peu plus d'espoir de côté, un peu de tout côté, et c'était plus tendu. Là, je pense que c'est beaucoup moins tendu quand même.
Ça veut dire que, est-ce qu'on en parle en famille, par exemple? Est-ce qu'on se dispute en famille quand on parle des élections de dimanche, ou on évite d'en parler, ou c'est pas le sujet, en fait?
Ça dépend. Par exemple, dans ma famille, personnellement, ça parle pas beaucoup, mais c'est, je suis pas peut-être le représentant tout classique. Sinon, je pense que, voilà, il y a moins d'intrigues, c'est moins tendu, et les gens, évidemment, il y a moins d'intérêt.
Alors moins d'intérêt, je pense qu'on y reviendra beaucoup pendant ces deux heures sur l'intérêt effectivement de ces élections. Qu'est-ce qui fera l'enjeu finalement de ces élections dont on sait que Vladimir Poutine en sortira vainqueur? Vous par exemple, Dimitri, 35 ans, jeune homme avec un travail, vous votez? Est-ce que vous savez si vous allez voter? Qu'est-ce que vous allez faire dimanche?
Ça, cette fois-ci, voilà, je suis pas certain. Parce qu'avant, j'y allais toujours. Parce que je pense que si on a le droit de voter, il faut suivre ce droit, mais là c'est la première fois peut-être que je ne sais pas si j'y vais.
Mais est-ce que ne pas voter, c'est aussi voter en fait pour vous? Est-ce que dans votre non-vote, il y a de la résignation ou il y a un acte qui dit je décide de ne pas voter? Pour quelle raison du coup?
Ah non, c'est un coup plutôt de vieillesse qui arrive. Là, c'est pas l'histoire que Navalny a dit tiens, on va faire boycott et que c'est une position plutôt active. Non, pour moi c'est plutôt que cette fois-ci, effectivement, je vois pas tellement raison pour moi personnellement d'aller voter.
Ça veut dire que, alors, pas d'enjeu, d'accord, mais il y a même pas un message à envoyer, à faire passer, quitte à voter pour un autre candidat. On reviendra à tous ces candidats qui sont là parce qu'il y en a d'autres, malgré tout, au-delà de Vladimir Poutine, mais il y a même pas un message à faire passer. Dimanche, vous savez que nous, on dit qu'on va à la pêche. Est-ce que vous irez à la pêche dimanche?
Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Voilà, c'est juste, je ne vois pas beaucoup de sens. Peut-être en tant qu'observateur, hein, je servirai à quelque chose. Et peut-être je le serai. Parce que je suis accrédité en tant qu'observateur. Comme ça, pour être sûr que c'est pas truqué, et tout le monde est respecté, leur vote, etc., bien calculé.
On y reviendra, Dimitri, tout au long de ces deux heures. Mais c'est vrai que le mot qu'on entend le plus souvent ici, c'est stabilité, stabilité. Gardons la stabilité. Est-ce que c'est un langage que vous comprenez ça, que vous entendez? Et est-ce qu'au fond, vous aussi, Dimitri, vous vous dites, c'est vrai qu'après tout, stabilité, stabilité, quoi?
Oui, c'est le discours que je connais bien et tout le monde le connaît. En fait, les gens qui ont vécu les années 90, cette transformation, c'était vraiment, vraiment très difficile. Et je connais les gens qui ont vraiment peur de ce temps-là et même inconsciemment. Donc, je comprends très bien le discours tenu quand les gens disent, mais tiens, au moins le pouvoir d'aujourd'hui, c'est une stabilité.
Mais vous, vous en souvenez, vous avez 35 ans. Est-ce que vous vous en souvenez de cette période-là? La période post-communiste, c'est 10 ans, là, Helsinki, donc qui se termine effectivement en 99. Vous en avez un vrai souvenir?
Oui, ben non, moi je m'en souviens très bien. Je sais pas pourquoi on dit que les enfants ne comprennent rien du tout, etc. Déjà, c'était pas une enfance, c'était plutôt, c'était plus tard. Mmh. Et... oui, je m'en souviens tout à fait bien de l'époque où on faisait les... un petit déjeuner avec une poudre des États-Unis comme une comment ça s'appelle ça
quoi,
l'aide humanitaire d'accord. À la population russe voilà avec ça et avec un petit sachet de quelque chose d'avoine je sais plus et ça pendant 4 mois etc. Donc c'était quand même des années où on gagnait pas beaucoup et alors je comprends très bien les adultes qui ont peur d'avoir ce temps là etc.
Et ça, on va y revenir. Et avant d'aller vers les adultes, justement, on va rester un petit peu dans votre tranche d'âge, peut-être un petit peu en dessous. Je vous avais promis qu'on quitterait Moscou plein de fois, évidemment, pendant au cours du 18-20. On va l'explorer, cette Russie qui s'apprête donc à nous emmener vers Vladimir Poutine, saison 19. Et bonsoir à vous, Bertrand Galichet.
Bonsoir, Fabienne.
Bertrand, dites-nous d'abord où vous êtes et pourquoi vous avez choisi surtout de vous arrêter dans cette ville.
Alors, nous sommes ici à Nijni Novgorod, à 400 km à l'est de Moscou, sur les rives de la Volga, une ville industrielle choisie par Vladimir Poutine en décembre dernier pour annoncer sa candidature à la présidentielle.
Alors, c'est dans cette ville et c'est vers les plus jeunes, surtout, Bertrand, que vous avez décidé de vous tourner pour nous, ceux qui votent pour la première fois, et surtout qui n'ont jamais connu autre chose que Vladimir Poutine à la tête de la Russie.
Et beaucoup de ces jeunes s'accommodent du régime avec des arguments qui ressemblent étonnamment à ceux développés par les générations précédentes, à savoir la stabilité du pays et de l'économie, même si leur quotidien n'est pas toujours facile. Voici Tatiana qui a une vingtaine d'années. Ses études sont financées par sa famille, mais elle gagne aussi un peu d'argent en travaillant dans le tourisme pendant l'été. Et elle s'interroge encore sur son vote dimanche prochain.
Franchement, je réfléchis encore. Je regarde toujours des débats, des candidats. Avec Poutine, on risque rien, mais on risque ne pas avoir des changements. Voilà.
Qu'est-ce qui vous plaît chez Poutine et qu'est-ce qui vous déplaît?
Bien sûr, sa politique étrangère. Son principe de paix, pas toujours non-intervention, mais de paix, ça impressionne, quoi. Après, ce que j'aime pas trop, c'est peut-être la liberté de parole, disons comme ça, ça nous manque. C'est toujours d'un côté qu'on voit la situation.
Les sanctions économiques qui ont été imposées par les Occidentaux contre la Russie, est-ce que vous les avez constatées dans votre vie quotidienne ou pas?
Pas trop. J'ai mangé pas beaucoup de parmesan, par exemple, et ça me touche pas trop. Même, je dirais qu'il y a des côtés positifs pour la Russie parce qu'on a commencé de développer l'agriculture. Ça marchait pas trop bien il y a 3 ans peut-être et maintenant ça commence à développer. C'est bien.
Vous faites confiance à Poutine pour améliorer votre niveau de vie dans les années qui viennent?
Pas améliorer, mais rester comme on est. Il peut pas donner plus qu'on a déjà. Voilà.
Et rester comme on est, c'est déjà bien?
C'est pas mal. C'est pas bien, mais c'est pas mal.
Tatiana trouve que la vie devient plus difficile en Russie à cause de la hausse des prix, une inflation qui oblige certains jeunes ici à multiplier les petits boulots.
Et voilà, et des jeunes, Bertrand, dont le niveau de vie en Russie, en particulier d'ailleurs dans une ville de province comme la vôtre, comme là où vous êtes, leur niveau de vie n'est pas très élevé, mais Pour autant, ils ne se révoltent pas, ils ne disent pas grand-chose finalement.
Non, car souvent leur famille les aide et aussi leur rappelle que dans les années 90, eh bien, la situation ici était catastrophique, ce qui incite beaucoup de jeunes Russes à trouver des qualités à la politique de Vladimir Poutine. Écoutez ce qu'en pense cette jeune femme, maman d'un petit enfant et qui poursuit des études. Elle se félicite de la politique familiale de Poutine.
La réponse est bien évidente que si je vais voter pour lui, donc j'attends bien le développement. Par exemple, il s'agit du congé de maternité et il s'agit des versements qu'on peut recevoir si tu as un enfant ou bien deux enfants. Dmitri Medvedev, il a organisé le système de ces versements pour le deuxième enfant. C'est à peu près 5 000 €. Mais si tu as un enfant, tu n'as rien, en fait. Mais dès le septembre de 2017, M. Poutine a signé le programme de ce versement pour le premier enfant. C'est-à-dire chaque famille, chaque mère peut recevoir le versement de minimum vital. C'est-à-dire, par exemple, à Nijnogorod, c'est 10 000 roubles. C'est suffisant pour acheter des vêtements pour les enfants. Il fait quelque chose. Il y a vraiment un très bon développement dans ce domaine.
10 000 roubles, cela fait environ 150 €, ce qui n'est pas négligeable ici. J'ajoute que pour beaucoup de jeunes, eh bien, l'essentiel avec le régime actuel, c'est leur liberté de voyager à l'étranger, ce qui les rend un peu moins critiques envers le pouvoir.
Merci beaucoup Bertrand, avec Pierre Quintard pour les moyens techniques. Dimitri, ce qui me frappe en écoutant ce reportage, c'est cette phrase « bah, c'est pas bien, mais c'est pas mal finalement ». Et ça résume assez bien ce que vous nous disiez tout à l'heure. Poutine, c'est pas bien, mais c'est pas mal.
Bah, c'est ça, c'est un avis personnel. À mon avis, ici, c'est pas mal, c'est pas bon. Donc, je sais pas. C'est un jugement qu'on vient d'entendre. Là, ce que j'ai entendu, c'est plutôt que quand même. Et ça, ce que j'aime pas trop, c'est que dans la population russe, de plus en plus, il y a cette perte d'initiative et il y a les gens qui attendent toujours quelque chose du pouvoir. Là, il y en avait moins avant.
Mais du coup, ça veut dire que quelque chose de neuf, effectivement, c'est trop neuf. Et c'est oulala, attendez, on ne sait pas à quoi ça va ressembler. Donc autant rester vers ce qu'on connaît. C'est aussi ça que ça dit quand on attend de l'État, quand on attend du président qu'il soit celui qui décide de tout.
Oui, en partie c'est ça. Mais en gros, comme conclusion que je viens de tirer, c'est que les gens se disent, mais tiens, voilà, celui-là, il a signé une loi et maintenant j'aurai une dotation pour un deuxième bébé. Etc. Donc, mais à quoi vous pensez? C'est que les gens, voilà, c'est le type de patronage que les gens entendent toujours au lieu de prendre une initiative, prendre une responsabilité. Et ça, c'est beaucoup changé parce que quand j'ai débuté, c'était la fin des années 90. On s'en foutait un peu de ce support. On se disait, ne nous empêchez pas trop, on va tout faire.
Pour vous, Dimitri Bulba, justement, ces 10 dernières années, et même depuis que vous avez commencé à travailler, donc depuis la fin des années 90, vous êtes auto-entrepreneur. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que votre pouvoir d'achat va bien? Ou est-ce que, comme le disent aussi ces gens qu'on a entendus, l'inflation, l'économie fait que c'est plus compliqué pour vous aujourd'hui que ça a pu l'être à un moment?
Oui, c'est quand même une question complexe. C'est pas si simple que ça pour répondre, mais en gros, c'est un peu plus compliqué qu'avant. Mm-hmm. Les meilleures années, c'était quand même le début des années 2000, 2001, 2005, où on avait beaucoup, beaucoup de marge de manœuvre. Et il faut quand même noter que même aujourd'hui, la Russie reste très attractive parce que si vous êtes entrepreneur, si un jour vous arrivez, Fabienne, je vous dirais, il y a plein de niches.
Si je veux me reconvertir, je viendrai me reconvertir ici.
Voilà,
c'est pas notre prochain invité qui dirige la Chambre de commerce franco-russe qui nous contredira. Pardon, je vous ai interrompu, Dimitri. Donc si on veut être entrepreneur, on peut être entrepreneur ici en Russie. L'économie nous accompagne, en fait. C'est ce que vous pensez, vous?
Je pense que le marché vous accompagne. Par contre, l'économie et le contexte, ça s'aggrave. Et aujourd'hui, les derniers 4 ans, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant.
Les sanctions, vous, j'imagine que dans un domaine qui est le vôtre, ça vous touche de loin, mais quand même, est-ce que vous en sentez le poids ou pas?
Ah non, mais ça nous a touché radicalement, parce que...
Même vous, dans votre travail, dans votre quotidien?
Mais le travail qu'on fait, c'est d'abord l'agence de traduction, on fait l'interprétariat et la traduction, on accompagne les étrangers en Russie beaucoup, et évidemment, depuis 4 ans, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de travail de ce côté-là.
Pavel Chinsky, bonjour, bonsoir.
Bonsoir.
Vous iriez, je disais tout à l'heure que vous étiez le directeur de la Chambre de commerce et d'industrie franco-russe. Est-ce que vous diriez la même chose que Dimitri Bulba? Il y a eu une période faste, effectivement, jusqu'en 2004-2005, puis l'histoire, on la connaît, l'effondrement des cours, etc., puis la politique qui s'en mêle. Est-ce que c'est beaucoup plus compliqué économiquement aujourd'hui pour les Russes?
Comme sur les marchés parisiens, je pourrais vous répondre que tout est relatif, ma bonne dame.
Si je puis me permettre.
L'un des mots qu'on emploie le plus souvent, et je pense à bon escient vis-à-vis de la Russie, c'est la résilience, c'est sa capacité absolument incroyable à se tirer de situations plus ou moins difficiles. Le XXe siècle a connu des situations particulièrement difficiles, donc ce qui s'est passé ces 20 dernières années, au regard de tout cela, et c'est ce que je dis avec mon autre casquette, puisque je suis historien à l'origine, mais c'est ce que vous diront tous les commentateurs un petit peu avertis, c'est que jamais la Russie n'a connu depuis ces 17 dernières années, depuis 2000, une période de prospérité sans guerre. Bon, la Tchétchénie est un cas à part, mais pas une guerre mondiale, en tout cas, qui mobilise l'ensemble du territoire et de la population. Jamais les Russes n'ont vécu aussi bien d'un point de vue matériel que depuis cette année-là.
Mais résilience, vous parlez de résilience, je trouve ça intéressant. Résilience, ça veut aussi dire système D, en fait. Ça veut aussi dire que on est toujours dans le domaine de la débrouille parce que c'est comme ça que ça peut fonctionner et pas autrement.
C'est le propre d'une société qui est passée d'un état omniprésent à un état totalement démissionnaire dans les années 1990, que Dimitri a évoqué.
Donc les années Helsine, oui.
Et c'est très difficile d'imaginer cela pour nous, pour un Français qui vit avec une inflation zéro et pour qui même l'occupation allemande, finalement, n'a pas révolutionné tellement les choses, toute proportion gardée. Donc parler d'une époque comme les années 90 avec 1 500 000 naissances pour 1 600 000 avortements, 2 200 000 morts, le taux de fécondité, vous avez plein d'indicateurs, mais tout ça ne rend pas compte de l'odeur et du regard des gens dans les rues de cette époque-là.
Mais alors qu'ils disent qu'effectivement ça va mieux aussi, et ça effectivement autant le dire, mais ça va mieux maintenant, pardon, et autant le dire très bien, mais si on regarde les chiffres, Pavel Chinsky sont quand même assez 12e rang mondial pour l'économie russe, une économie donc qui patine un peu, on en parlait à l'instant, il y a eu la chute des cours, on parlera pauvreté tout à l'heure avec Claude Brouillot qui vient de s'installer autour de nous à la table. C'est compliqué en ce moment pour les Russes économiquement, et donc c'est compliqué, j'imagine, aussi, même pour un entrepreneur et pour s'installer ici.
Je vous répondrai qu'à
l'époque... Vous pouvez me dire non, par ailleurs.
Non, je vous répondrai encore une fois pour relativiser les choses, que dans les années 90, l'économie russe était plus petite que celle du Portugal, que l'État était endetté, que l'espérance de vie masculine n'excédait pas 60 ans.
Donc c'était moins bien avant, c'est un peu mieux aujourd'hui, c'est
non,
pas top, mais
avant,
c'est un peu
c'était
mieux.
Tragique. Aujourd'hui, on est dans une économie de pays d'Europe centrale. Le Moscou que vous découvrez aujourd'hui ressemble certainement pas à Paris ou à Londres, mais commence à ressembler à Budapest ou à Prague, avec des secteurs piétons, avec des plantes vertes, avec des zones d'agrément où effectivement il fait bon flâner. Moscou est rendue aujourd'hui aux piétons, elle n'est plus uniquement territoire des automobiles. Et pour ce qui concerne... Et là, c'est directement lié à la politique, la prospérité des gens. Vous avez une classe moyenne qui a été balayée par plusieurs crises financières successives pendant les 17 dernières années, qui aujourd'hui est visible, et elle est visible non seulement à Moscou, qui est cette sorte de mégalopole tentaculaire entre 15 et 17 millions d'habitants, suivant les statistiques, mais qui est visible dans les 12 ou 13 villes millionnaires aujourd'hui. Et les entreprises françaises, et je suis particulièrement fier de ce point de vue-là, puisque je la représente, y ont contribué, parce qu'à partir du moment où on roule en Logan, où on a un crédit à la Rosebank, qui est la Société Générale, qu'on fait ses courses chez Auchan ou chez Leroy Merlin, on accède à une mentalité, sinon de petit propriétaire, mais du moins de possédant. Et c'est quelque chose qui vous pousse à voter, qui vous pousse dans les rues à défendre vos droits. Tant que vous n'êtes propriétaire de rien et que l'État peut tout vous prendre du jour au lendemain et que vous avez accès à des produits qu'on vous donne et vous n'avez pas le choix parce que c'est soit ça, soit rien d'autre, comment voulez-vous que vous alliez voter, que vous ayez du civisme?
Mais ce qu'on lit, ce qu'on voit, ce qu'on entend aussi, c'est que l'économie n'a pas été le secteur qui a été le plus ou le mieux développé par Vladimir Poutine. Et pour dire les choses clairement, c'est pas tout à fait sa tasse de thé même. C'est pas là qu'il est le plus fort, Vladimir Poutine. Est-ce que c'est vraiment là qu'il a insisté? Est-ce qu'il a permis de faire un certain nombre de progrès? C'est pas ce qu'on voit sur les chiffres. Maintenant,
C'est pas la sensation que j'ai eue avec une délégation d'une quinzaine de patrons du CAC 40 quand on l'a rencontré pour la deuxième fois le 18 janvier dernier. Des sociétés aussi différentes que Dassault, Danone, Air Liquide, Schneider Electric lui posaient des questions extrêmement précises sur des points concernant concrètement leur exercice professionnel en Russie, et je vous assure que non seulement ils connaissaient les dossiers, mais qu'ils prenaient de l'intérêt, et qu'un certain nombre de décisions indispensables au regard des chefs d'entreprise français qui étaient là ont été prises avec une vitesse extrêmement forte. Et le problème réel, c'est qu'on est quand même dans un système où le pouvoir est pyramidal, les choses se font à la main, et gérer un pays aussi gigantesque de 9 fuseaux horaires et qui dépend de la volonté d'un seul homme, avec un pouvoir de nomination qui est... Aujourd'hui, personne ne sait qui sera nommé Premier ministre. Il y a un certain nombre de rumeurs qui courent la ville. Mais il y a une seule personne qui le sait dans le pays, et c'est Poutine et personne d'autre.
Et puis, on en parlait avec Dimitri à l'instant, mais il y a les sanctions. Pavel Chinsky, à un moment, ça pèse sur l'économie. Ça pèse, j'imagine même, dans la velléité de s'installer ici pour investir en Russie, ou pas ?
Elles pèsent lourdement. Leur impact principal, c'est la restriction de l'accès au financement. Donc, soit les entreprises s'autofinancent, soit elles ne se financent pas du tout. Les entreprises françaises, elles aussi résilientes, sont restés sur le territoire russe. Aucune d'entre elles...
Personne n'est parti.
Personne.
Est-ce que c'est... Pardon de vous interrompre. Est-ce que c'est un cas unique, j'allais dire, des Français? D'autres sont partis, mais les Français sont restés? Ou est-ce que tout le monde, finalement, pour l'instant, fait le gros dos et attend de voir?
Dans le top 5 des investisseurs, la France est la seule à avoir montré cette volonté de continuer à travailler en Russie, ce qui nous a permis de grignoter des places dans le palmarès des principaux investisseurs, notamment au détriment de nos amis allemands qui ont dégringolé pendant plusieurs années de quelques places. La France était le premier investisseur direct en Russie de 2014 à 2017. Aujourd'hui, les Allemands nous sont repassés devant.
S'installer en Russie, c'est aussi prendre un certain nombre de risques, j'imagine, parce que la situation politique, et ça, tout le monde en est bien conscient, a des hauts et des bas. On va dire, on a des relations qui peuvent avoir des hauts et des bas. Est-ce que ça joue ou est-ce que ça ne joue pas du tout, selon vous ?
J'ai pas tellement eu d'exemple de spoliation d'entreprises françaises. Il y a eu effectivement une incidence directe.
Non, c'est pas une question de spoliation. C'est l'idée que quand on s'installe dans un pays avec lequel on a des relations un peu mouvantes, c'est peut-être plus compliqué simplement ensuite de fonctionner, de travailler.
La France est présente depuis très longtemps en Russie. Pour certaines entreprises, ça se compte en siècles. FIV, la Société Générale, était là avant la Révolution. Donc les investissements sont tellement énormes. L'usine ex-Avtovaz à Togliatti, qui aujourd'hui appartient à l'alliance Renault-Nissan, la vingtaine d'hypermarchés du groupe Mulier, Decathlon, Auchan, Leroy Merlin, présente Kaliningrad, à Vladivostok, les enseignes Rosbank que vous voyez jusqu'au Kamtchatka. Tout ça fait qu'on ne part pas de Russie avec quelques petits actifs sous le bras, comme si on avait monté une échoppe dans un carrefour. Et je continue à croire que la France et la Russie sont les partenaires les plus naturels en Europe. Et quels que soient les aléas géopolitiques, on a toujours la persistance d'un discours politique et d'un dialogue qui aujourd'hui repart grâce, je pense, à ce geste de bonne volonté fait par le président Macron en invitant le président Poutine à Versailles. Et le président Macron va venir à Saint-Pétersbourg, là, au mois de mai, comme invité d'honneur du Forum de Saint-Pétersbourg.
Il est resté une bonne semaine, autant que je sache. C'est Claude Brouillot qui me le confirmait tout à l'heure. Une dernière chose, Pavel Chinsky, sur ce sujet. Est-ce qu'on entend des choses dans la campagne aujourd'hui, y compris celle de Poutine, d'ailleurs? Est-ce qu'on entend dire des choses qui, sur l'économie, permettraient d'avancer, des choses du domaine d'un programme, réellement, et d'un vrai plan économique? Est-ce que ça existe, réellement? Est-ce que vous l'entendez et est-ce que ça vous parle?
Alors, il y a eu un discours qui a été abondamment commenté, notamment dans les médias français, qui était le discours récemment prononcé par le président Poutine devant les deux chambres du Parlement, et qui était fait en deux parties. Et hélas, à l'étranger, notamment en France, on a retenu que la deuxième partie, qui avait peut-être une vocation justement plus internationale, puisqu'il s'agissait de parler de réarmement, des fameux nouveaux gadgets technologiques.
Nous intéresse un petit peu les uns les autres quand même, vous voyez.
Mais la première partie du discours, qui elle était à finalité interne, était une partie économique et qui reprenait les thèses les plus libérales de l'entourage du président, qui était celle d'Alexis Coudry, l'ancien ministre des Finances, et qui parlait d'investissement dans le potentiel humain et de libéraliser l'économie.
Et on y reviendra donc dans un instant, ce sera avec vous, Claude Brouillot. On va parler effectivement du niveau de vie aussi de ces Russes-là et de tous les Russes. On parlait d'un pays continent, pays tentaculaire tout à l'heure. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de monde et beaucoup de disparités aussi quand on traverse comme ça 9 fuseaux horaires. Tiens, je vous emmène rencontrer un groupe franco-russe qui s'appelle Soviet Suprême. Et ben, comme ça, c'est de cette saison, j'allais dire. Et la chanson, ben, j'ai oublié son titre, Leningrad. Tiens, allez, c'est parti.
Das ist Post-Soviet. Guten Tag, привет. Уэкар Макс, о супермаркет, das ist Post-Sowjet, Post-Sowjet, es ist nicht zu spät, nicht zu spät, du bist obsolet,
quelques traces sont fossilisées. En surface des rayons des supermarchés, des chapelas échappés, des vestiges du passé, des médailles, des t-shirts Gucci. Des fossiles au rayon maquillage, des fossiles au rayon outillage, où le pro délétère traîne son spin entre rayons verts et greenwashing.
Dissident du caddie, réticent, accédé, un radis. Métro, boulot, marteau, coco, cola, chèque, cadeau, sans la carte du parti. Consommateur addict, qui passe à la caisse et qui bip, qui défile dans la file d'attente, sans slogan, sans lendemain qui chante.
Das ist post-soviet, post-soviet, guten Tag, privet,
guten Tag, privet.
Où est Karl Marx?
Karl Marx.
Au supermarket,
Marx.
À l'hyper, Georges marchait, un prolo Lacoste pour une noix de coco. Il répond banco, fidèle au poste Castro, consomme de tirer franco, et conserve grande cause en conserve. Lui qui cause en verve du colcos, ses idées surgelées ont rempli son panier.
Il tartine sa déprime, comme Yuri Margarine, et il pleure toutes ses larmes au rayon cristalline, line. Allongé sur le tapis, on scanne sa mémoire, on l'embellit, on l'emballe, on le pèse, on lui colle un code barre, on le charge comme un produit.
Das ist post-soviet,
post-soviet,
guten Tag, privet,
privet.
Où est Karl Marx?
Karl Marx.
Au supermarket, das ist post-soviet,
post-soviet.
Es ist nicht zu spät,
nicht zu spät,
to be obsolete.
Ça s'appelle les Soviets suprêmes, le groupe, le groupe qui s'appelle les Soviets suprêmes, la chanson s'appelle Leningrad. Ça vous a un peu intrigué, Dimitri Boulba, je dois dire, cette chanson, non? Vous avez trouvé ça un peu, comment on dit, baroque?
Ouais, mais c'est bon, c'est un jeu avec des stéréotypes, donc il y a rien à commenter.
On est toujours en spécial sur France Inter, ici à Moscou. Il est 20h43, heure de Moscou. Je voudrais qu'on continue un petit peu sur la ligne qui était la nôtre il y a un instant. Bonsoir à vous, Claude Brouillot.
Bonsoir.
Notre correspondant ici à Moscou. C'est vous qui connaissiez le mieux à la fois la ville et le pays. On parlait de pauvreté à l'instant. On parlait de conditions de vie difficiles aussi dans le reportage qu'on a entendu chez Bertrand Galichet. D'économie qui a un peu de mal à émerger. Vous avez été chercher une Russie, un Moscou, que peut-être on voit moins, en fait, ou que peut-être on veut pas voir, en fait.
Oui, parce qu'ils sont quand même très nombreux. Par exemple, 20 millions de Russes, aujourd'hui, ce sont les statistiques officielles, vivent en dessous du seuil de pauvreté, donc avec moins de 150 euros par mois. Et puis, il y a aussi ceux qui sont encore plus pauvres, qui n'ont rien du tout. Dans une agglomération comme Moscou, les organisations caritatives parlent de 10 à 15 000 personnes, donc... ça compte, c'est énorme, mais on les voit pas forcément dans le centre-ville.
Et vous allez nous y emmener. On va écouter votre reportage et on se retrouve, Claude, juste après.
Tania s'appuie sur son bâton en bois au coin de la rue. Elle tient un sac en plastique dans lequel il y a quelques pièces de monnaie. Emmitouflée dans un vieux manteau noir, elle tend la main qui lui fait le moins mal. Quand on lui demande son âge, elle dit qu'elle ne sait pas. 80 ans, peut-être plus. Avec l'argent récolté dans la rue, elle vit aussi grâce à la pension d'invalidité de sa fille. Ancienne ouvrière d'un kolkhoz soviétique, elle-même n'a pas de retraite. Tania a connu deux conflits armés, la Deuxième Guerre mondiale et celle du Donbass, où elle vivait avant d'être évacuée.
Ah, les voyous qui bouillissent, конечно, больница. Я в колхозе работала.
Mes mains me font mal. J'étais à l'hôpital. Ça vient du temps où j'ai travaillé au kolkhoz en Biélorussie, quand tout a commencé à aller de travers. On nous a évacués une première fois, ils ont démantelé le kolkhoz, mon mari a été tué près du village. Ensuite, j'étais à l'hôpital, je suis restée toute seule, comme une vieille. Je n'avais que mon enfant. Ne vous retrouvez jamais à l'hôpital, il vaut mieux mourir chez soi. J'étais à Zaporodjie, puis à Mélitopol, et quand les obus sont tombés, je me suis enfuie.
Nous sommes maintenant au nord-ouest de Moscou, dans l'un de ces nombreux secteurs résidentiels, faits de grands ensembles assez impersonnels, mais au loyer accessible pour les plus bas revenus. Nous arrivons dans l'appartement d'Alsou, jeune femme trentenaire d'origine tatare, qui habite dans 60 mètres carrés avec son mari et ses deux filles de 4 et 2 ans. Alsou, qui a fait des études supérieures, avait un bon travail dans le marketing à Moscou. Mais avec la naissance de ses deux filles et les difficultés de son mari à trouver un travail stable, la situation de la famille s'est rapidement dégradée, la faute notamment à des aides bien insuffisantes.
En 2013, j'ai eu la première, et en 2016, j'ai eu la deuxième fille. Donc, j'ai sorti de décret en décret.
D'abord, j'ai quitté mes parents, puis je me suis mariée. Et au bout d'un an, j'ai accouché de ma première fille. Au bout de 3 ans, j'ai eu la deuxième. Je travaillais, j'ai eu un congé maternité, et d'un congé maternité, je suis passée à un autre. Pour les 18 premiers mois de congé, à Moscou, on reçoit 200 euros par mois. Et après, les 18 mois suivants, on te donne 60 roubles, moins de 1 euro par mois. Maintenant, je ne travaille pas. Je ne reçois plus rien, ni de mon employeur, ni du gouvernement. J'ai encore une place au bureau, mais mon congé aujourd'hui est sans solde. Comme mon mari est chauffeur, il ne gagne pas beaucoup. Il a regardé les critères pour avoir une bourse, celle qu'on donne au bas salaire. Il a envoyé les papiers, car nous sommes dans les critères. Mais pour moi, ça sera 60 euros par enfant.
Alsou espère retrouver bientôt son travail, mais elle est inquiète car elle dit qu'elle n'a aucune garantie de refaire la même chose après ses deux congés maternité. Et quand on lui demande si elle ira voter dimanche, elle se contente de sourire avant de dire qu'elle n'ira pas.
Et Claude Brouillot, elle n'y va pas voter, cette femme par exemple, elle n'y va pas parce que ça ne sert à rien. Quand on l'entend, c'est plutôt qu'elle a même autre chose à faire en fait de sa vie que d'aller voter, femme.
Aucune motivation, et son mari qui était là, c'était la même chose, les amis qui étaient à peu près dans la même situation, c'était pareil. Ces gens-là essaient de s'en sortir, c'est la débrouille. Le couple à côté avait décidé de ne pas être officiellement marié parce qu'une femme seule avec deux enfants a plus d'aide que si elle est avec un mari.
Mais est-ce que ça, ce sont des laissés pour compte d'aujourd'hui, là, de cette situation, ou est-ce que il y a 10 ans, par exemple, est-ce que leur situation était réellement meilleure?
C'est difficile à dire. En tous les cas, on les appelle aujourd'hui les travailleurs pauvres, c'est-à-dire ce sont des gens qui arrivent à avoir un travail, mais pas suffisamment bien payés pour s'en sortir, parce que la vie est chère, la ville est plus chère à Moscou que dans les régions, par exemple, dont on parlera tout à l'heure. Et la difficulté, effectivement, c'est quand on sort de ces situations-là, par exemple, avoir deux enfants coup sur coup, ça vous fait sortir du système, entre guillemets, et c'est très difficile de revenir parce que les aides sont pas suffisantes. Alors, il faut savoir quand même que Vladimir Poutine, au début de la campagne, a annoncé deux mesures importante quand même, augmentation du SMIC russe de plus de 15%, on passe de 139 à 163 euros par mois, et la deuxième mesure, ça concerne justement l'aide au premier enfant pour les familles les plus démunies. Donc c'est pas anodin, c'est pas rien, on peut dire que c'est populiste parce que ça arrive au début de la campagne, justement pour essayer de montrer qu'il s'intéresse au quotidien des gens, après avoir été beaucoup sur la scène internationale au début de sa campagne.
Dimitri Boulba, est-ce que c'est une Russie, un Moscou que l'on voit ou qu'on ne voit jamais, en fait, celui que décrivait Claude à l'instant?
C'est évident qu'à Moscou, on en voit beaucoup moins, quand même. C'est plutôt, il faut aller dans les régions, et là, c'est à peu près ça l'image.
Alors justement, tiens, dans les régions, Claude, allons-y, très loin d'ici, où est-ce que vous nous emmenez?
Alors très loin, tout est relatif, puisqu'il n'y a que 1000 kilomètres.
Quand le pays est très grand, le très loin est très relatif, on est d'accord.
On est au nord de la Russie, au nord de Moscou, à 1000 kilomètres, dans la région d'Arkhangelsk, la région arctique de Russie, et au bord d'une mer qui s'appelle la Mer Blanche, dans des villages qui sont coupés de tout, encore plus en hiver évidemment, où les gens, eh bien, encore une fois, se débrouillent par eux-mêmes.
Et on écoute Victoria tout de suite, ce que vous avez rencontré.
Vous comprenez, ici, la politique ne touche pas les gens. En fait, ce qui est important pour nous, c'est est-ce que nous aurons assez de bois de chauffage? Est-ce que la pêche a été bonne? La politique n'a pas sa place à Yamcha. Je pense que rien ne changera. Ce n'est pas un secret que les villages russes sont en train de mourir, et ça n'intéresse personne. On voit bien dans la région les villages nombreux qui sont déjà morts, et personne n'a rien fait pour les aider.
Claude Brouillot, on vote demain, d'ailleurs, à Yamcha.
Voilà, on vote 48 heures plus tôt, parce qu'il faut du temps pour rapporter les urnes, et ce sont des trajets qui prennent parfois une journée, et comme il y a énormément de villages dans la région, il faut préparer à l'avance le vote.
Et un mot sur ce que vous me racontiez à moi tout à l'heure, juste avant que ne démarre cette émission, sur la pression sur les épaules d'une personne comme Victoria au moment de voter.
Alors Victoria, elle a 28 ans, elle vient de Mourmansk, elle a suivi son mamie,
son mari qui était originaire du village, et elle essaie de faire grandir ce village avec notamment des aides extérieures pour être classé, parce que c'est un village qui est magnifique avec des maisons en bois, mais il y a de la pression aussi, parce que derrière la présentation de ce village à la commission qui va être décisionnaire, eh bien des politiques régionaux sont venus et leur ont dit: est-ce que vous êtes bien sûr de vouloir être classé, parce que derrière il va falloir assurer, vous allez avoir des besoins, est-ce qu'on pourra assurer ces besoins? Donc il y a un débat qui s'est instauré à l'intérieur du village, et les anciens, certains en tous les cas, qui vont voter pour Poutine, vont regarder si les autres voteront également pour Poutine. Et elle se sent un petit peu obligée, quelque part, d'aller demain voter, alors qu'elle n'en a pas envie, parce qu'elle veut quand même essayer de faire avancer son projet.
Et parce que ça se verra, il y a combien d'habitants dans ce village dont vous nous parlez?
98 habitants, 80 adultes.
Voilà, et donc on s'en rendra vite compte. C'est ce dont vous parliez à l'instant, Dimitri, c'est dans ces villages-là, qui sont très éloignés, effectivement, que là, on est dans un autre monde, en fait, dans une autre Russie.
Ah oui, mais ça, même, il faut pas aller à 1000 kilomètres, hein, c'est souvent beaucoup plus proche de Moscou que ça commence, et que le niveau de vie est beaucoup plus bas. Et je sais pas même comment les gens vivent. Vous avez maintenant cité les montants, effectivement, qui sont plus que discrets. Je connais des villages où les gens vivent de leur potager aujourd'hui, en 2018.
Je voudrais qu'on aborde un autre sujet ensemble, parce que l'heure tourne, et c'est avec vous qu'on va le faire. Danil Kaimovic, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue ici dans ce magnifique hôtel, et bienvenue sur France Inter. Vous êtes avocat spécialisé dans les droits de l'homme. On va travailler, on va venir à votre spécialité dans un instant. Il y a une question rituelle. Vous, est-ce que vous savez si vous allez voter et pour qui vous allez voter ou pas? Vous avez à peu près la même tranche d'âge que Dimitri.
Oui, bien sûr, je vais voter. Je comprends que ma voix n'a rien changé, bien sûr, mais je sens que c'est pas seulement mon droit, mais aussi je suis obligé de voter. Si je ne vote pas, comment je pourrais dire que j'ai fait quelque chose?
Et du coup, donc, votre champion ou championne, peut-être, qui sait?
Oui, je pense que je vais voter pour Sobchak.
Dont on aura l'occasion de reparler, Sobchak, qui est... qui était la fille de l'ancien maire de Saint-Pétersbourg, qui lui-même était un très proche de Poutine, que vous jugez crédible, en tout cas, ou c'est juste une manière de porter votre opposition que de voter pour elle?
Je n'ai pas un autre choix, je pense que, ouais, c'est contre Poutine.
Et on va y revenir dans un instant, puisque le 18-20 est très loin d'être fini. Claude Brouillot, pour rester dans les droits de l'homme dont on voulait parler à l'instant, je voudrais que vous nous parliez de ce que vous nous avez ramené de Tchétchénie. Cette fois, on a beaucoup entendu, nous, parler en France, puisque les reportages sont arrivés jusqu'à nous, de la manière dont les homosexuels étaient notamment traités, étaient même enfermés, étaient battus. Qu'est-ce que vous ramenez? Qu'est-ce qu'on y dit là-bas? En quoi ça résonne encore?
Alors, c'était il y a un an, il faut rappeler, la grande enquête du journal Novaya Gazeta, donc montrant, témoignage direct à l'appui, que des homosexuels ont été maltraités, agressés, tués même en Tchétchénie. Et donc nous sommes retournés à Grozny pour essayer, un an après, de comprendre ce qui avait pu se passer. Et nous avons notamment rencontré un imam francophone, proche de Ramzan Kadyrov, qui est, on le sait, l'homme fort de la Tchétchénie. Et cet imam nous explique un petit peu comment lui voit les choses.
On l'écoute, on y revient après.
Ce thème n'a jamais été notre agenda. Jamais, l'histoire.
Et vous pensez que c'est pas vrai, tout ce qui était dit, c'est pas vrai?
À part cette provocation informationnelle, on n'a jamais eu ce problème-là. Mais puis-je vous poser une autre question?
Oui, oui.
Pourquoi ce thème de ce genre-là en Tchétchénie est devenu si principal, si majeur pour la presse occidentale? Peut-être il y a d'autres choses qui sont très importantes, mais pourquoi? Vous savez très bien que...
Mais parce que c'est une question de liberté individuelle.
Non, c'est une question de perversité. C'est pas une question de liberté individuelle, c'est une question de perversité. C'est une question de perversité, voilà. C'est ça notre différence conceptuelle. Pour nous, ce problème-là, avec ces gens dont vous parlez, ce n'est pas une question de la liberté personnelle, c'est une question de perversité personnelle, voilà.
Dalil Kalimovic, Danil, cette histoire a fait beaucoup de bruit chez nous. Est-ce qu'elle en a finalement fait autant chez vous? Est-ce que c'est vraiment venu jusqu'à Moscou? Est-ce qu'on en a beaucoup parlé?
Premièrement, je voudrais dire que qu'en Tchétchénie, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes avec les droits de l'homme. Non seulement si on parle des droits des gens homosexuels. C'est les tortures... les kidnappings, il y a beaucoup de problèmes. Et la région est très fermée. C'est très difficile de conduire les investigations, les vraies investigations là-bas. Et vous avez entendu la réponse.
Et l'état d'esprit, ouais, on l'a bien compris.
Mais c'est leur position.
C'est leur position, mais encore une fois, est-ce que c'est venu jusqu'ici? Est-ce qu'on en a parlé ou est-ce que c'était pas un sujet?
On a parlé. Je ne suis pas sûr si on a parlé à la télévision officielle, mais à médias, beaucoup de, je pense que à l'internet, il y avait beaucoup de discussions.
Vladimir Poutine avait dit à une période, on fera une enquête. Est-ce qu'elle a vraiment eu lieu, cette enquête? Est-ce qu'il en est sorti des choses?
Il y avait une enquête, une investigation, mais j'ai le résultat officiel, ils ont dit qu'ils n'ont pas trouvé les évidences de ces tortures. Et c'est toujours la position de gouvernement, de l'État. Ils ne reconnaissent pas la communauté LGBT comme le groupe social. Et ils disent non, nous ne violons pas leurs droits. Ils existent et ils ont tous les droits de l'homme. C'est pas le problème chez nous.
Mais Daniil, est-ce que c'est, vous l'avez dit, la Tchétchénie, c'est un endroit à part. Ce sera ma dernière question. Et puis il y a donc la Tchétchénie, puis il y a Vladimir Poutine, et puis il y a la Russie. Ce dont on parle finalement, est-ce que c'est juste un problème tchétchène, ou est-ce que c'est d'une manière générale la société russe qui a besoin aussi de s'ouvrir, notamment aux problèmes LGBT, qui a besoin d'en parler, de le savoir, de le mettre sur le tapis. Est-ce que c'est pas aussi toute la communauté russe qui est très éloignée de ces sujets-là?
Peut-être parce que le Tchétchénie, c'est un exemple extrême. Mais en général, bien sûr, cette communauté LGBT est invisible et marginalisée à cause de la loi, anti-propagande de loi. Et bien sûr, ils sont invisibles parce que la population n'a pas de connaissances. Beaucoup de gens pensent comme cet imam que c'est la perversité.
Donc vous avez beaucoup de travail à faire encore, vous, dans votre travail d'avocat
bien sûr,
ici.
Oui. L'éducation, c'est tout.
On va se retrouver, merci à tous, ici à Moscou, avec de nouveaux invités. On va parler d'espions russes, on va parler de Crimée, vous nous y ramènerez, Claude. On va parler d'opposition aussi. Restez bien avec nous dans un instant, c'est le journal avec Yves Lecamp.
France Inter, 19h22, un jour dans le monde, la suite en direct de Moscou avec vous, Fabienne Sintès.
Merci beaucoup Yves Decamp, retour à Moscou, en effet toujours à l'hôtel Métropole, toujours à deux pas de la Place Rouge, toujours dans ce magnifique hôtel Métropole et sa décoration art déco incroyable. Tiens, je vous enverrai par Twitter des photos de la salle du petit-déj et vous serez pas déçus, vous allez voir, ça s'appelle de la hauteur sous plafond. Allez, le 18-20 qui continue vers cette réélection donc de Vladimir Poutine. Réélection, ça on le sait, mais pour quelle Russie, avec quelles envies, quelles relations, on vous raconte tout.
France Inter en direct de Moscou. 18-20 spécial. Fabienne Sintès.
Et bonsoir Sergueï Buntman.
Oui, bonsoir.
Je voulais vous faire écouter ce qui est là derrière nous, c'est ce qu'il y a à la télévision qui tourne en boucle depuis 3 jours probablement, et aujourd'hui particulièrement, vous êtes le rédacteur en chef adjoint de la radio Écho de Moscou. Ce qu'on entend, c'est tout ce qui se dit autour de cette fameuse histoire d'espion russe. On peut difficilement passer à côté de l'actualité, de cette actualité brûlante. Ça sert Vladimir Poutine, non, cette histoire-là au final ou pas? Est-ce que ça sert sa narrative?
Il veut s'en servir pour créer cette image de forteresse assiégée par tout le monde, maintenant par les quatre, par la déclaration conjointe de la France, de Grande-Bretagne, d'Allemagne et des États-Unis, etc. Mais en même temps, il veut être chef d'un État reconnu par le monde entier. Et surtout par les grandes puissances.
C'est toujours été son paradoxe, finalement, à Vladimir Poutine. Au début, proche de l'Europe, et puis finalement déçu, et puis il y a une espèce d'aller-retour permanent. On est dedans aussi dans cette affaire,
non,
finalement.
Il n'a jamais été proche de l'Europe.
Même pas au début.
Parce que, idéologiquement, il n'est pas proche de l'Europe. Il est quelqu'un, il est touriste du KGB. Parce qu'il a connu cette Allemagne de l'Est. Et c'est pour lui, c'est l'Europe, c'est où c'est propre et c'est socialisme et c'est quelque chose et c'est aussi ça ressemble à l'union à une union soviétique idéale.
Et en même temps, dans cette histoire d'espions notamment, personne n'a encore rien fait d'irrémédiable et lui non plus en fait. Donc on sent que chacun retient les chevaux finalement.
Mais il faut bien sûr on ne peut pas déclarer. C'est vous-même en Angleterre, vous avez créé ce Novichok. Ce gaz, cet agent, c'est vous-même, ou peut-être c'est l'Ukraine. C'est l'Ukraine est un suspect de service. Et il y a aussi, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire, sauf la vérité et sauf une enquête propre et correcte.
Mais l'argument de la forteresse assiégée, effectivement, le pays assiégé, les forces hostiles, ça marche, ça, y compris maintenant, d'ailleurs, trois jours avant l'élection, c'est un argument qui marche.
Oui, ça marche bien avec cette campagne de persuasion et de mobilisation au vote par Vladimir Poutine, parce que sous toutes ces informations des écoles, des établissements où on fait venir les gens et voter correctement, c'est parce que faire venir les gens ça ne suffit pas encore. Il faut voter correctement.
Dire qu'il faut leur mettre la main dans l'urne, quasiment.
Oui, il faut faire des photos, il faut faire selfie avec son bulletin de vote et avec où est Poutine est marqué. Mais c'est aussi de la propagande tout à fait soviétique avec le grand frère qui regarde et qui parce que je ne peux pas imaginer quelqu'un qui puisse penser sérieusement qu'on allait le contrôler ou bien le virer de son établissement, de l'école, etc.
Et bonsoir Clémentine Fauconnier.
Bonsoir.
Également, vous nous avez rejoint ici autour de la table avec Claude Brouillot qui est resté, bien sûr. Vous êtes chercheuse à l'UHESS et vous avez enseigné ici pendant 3 ans au collège universitaire français de Moscou. Comment vous les trouvez, ces Russes que vous retrouvez aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils vont voter justement sans suspense, on le sait, mais avec une pointe d'enthousiasme pour les pro-Vladimir Poutine ou avec beaucoup de résignation finalement, comme nous l'expliquait Sergueï à l'instant, on fait un selfie puis on s'en va?
Alors évidemment, ça dépend de quel russe on parle.
Certes,
ce que je connais le mieux, c'est-à-dire les étudiants moscovites à qui j'ai donné des cours pendant 3 ans ici à Moscou, sont en général assez las et beaucoup ne vont pas aller voter. C'est-à-dire que le grand débat, c'est de savoir est-ce qu'on va aller voter quand même pour montrer qu'on existe et que c'est légitime d'avoir sa voix exprimée. Mais dans ces cas-là, pour qui voter, ça c'est un autre problème. Mais la plupart que je connais vont plutôt ne pas aller voter en considérant que c'est une mascarade. Donc ce sont des non-élections, nievybory. C'est un mot qui revient très souvent dans leur discours et donc pour exprimer aussi leur exaspération.
Oui, c'est ce qu'on disait aussi effectivement tout à l'heure. Mais ne pas voter, ne pas choisir, c'est aussi choisir finalement.
Oui, d'autant plus qu'Alexei Navalny a appelé aussi au boycott des élections. Donc c'est bien pour ça que toute la campagne c'est organisé aussi d'un côté comme de l'autre autour du fait aller voter. Et donc aller voter, c'est déjà d'une certaine façon jouer le jeu de Vladimir Poutine, de cette offre politique qui est construite et qui est entièrement contrôlée par le haut, ou ne pas aller voter. Et dans ces cas-là, de fait, on suit quelque part le mot d'ordre d'Alexei Navalny.
Et on va y revenir à Alexei Navalny, on y reviendra dans un instant. Et aux autres candidats aussi, encore une fois, parce que malgré tout, même si leur pourcentage ne donnera pas grand-chose, ils existent. C'est peut-être aussi une preuve de quelque chose. Juste avant de partir avec vous en Crimée, Claude Brouillot, Sergueï Butman, est-ce qu'on sait ce qu'il a dans la tête, Vladimir Poutine, cependant? Est-ce qu'on est sûr que c'est bien le dernier mandat, que c'est bien les derniers 6 ans? Ou est-ce qu'au fond, on se dit, un nouveau coup à la Medvedev?
Peut-être, ou bien le changement de la Constitution, ou bien le changement du système d'État. Il y aura je ne sais pas qui, comment va s'appeler ce poste, président, un président du Conseil de quelque chose, ou bien c'est le grand chef de la Russie. Bien, mais je pense qu'il va rester parce que pour lui, il n'y a pas d'avenir. Pour lui, il n'y a pas d'avenir, sauf il ne peut pas imaginer quelque chose pour... Il pouvait, vous avez raison, peut-être il était plus proche de l'Europe et de l'Occident, de cette mentalité dans les années 2000. Peut-être il pouvait imaginer lui-même, en faisant des conférences quelque part, président une fondation quelque part. Mais maintenant, non. Après la Crimée, surtout.
Alors, après la Crimée, surtout, puisque vous nous y emmenez, on va y aller directement. Claude Brouillot, vous en revenez de Crimée. Vous revenez de beaucoup d'endroits depuis tout à l'heure, 18h, c'est assez vrai. Et c'est toujours impressionnant parce que c'est là aussi qu'il a choisi, lui, d'aller. Tout récemment, il y était, il y a encore quoi, un jour, hier. Voilà, c'était donc hier. Évidemment que c'est un vrai choix que d'aller en Crimée quand on est Vladimir Poutine en campagne aujourd'hui.
Absolument, avec un pays, une péninsule qui est un chantier à ciel ouvert, aéroport international en construction. construction une autoroute de plus de 200 km entre Simferopol et Kertch, le port. Ce pont géant de près de 20 km qui va arrimer carrément la péninsule, la Crimée, au reste de la Fédération. Une grande mosquée à Simferopol. Enfin, ça n'arrête pas. Et évidemment, Moscou, le Kremlin, met le paquet, comme on dit, pour faire décoller la Crimée et montrer au reste des Occidentaux, à l'Ukraine, que la Russie veut et a les moyens de vouloir.
Et Sergueï Moutman, est-ce qu'on peut dire que la Crimée, c'est peut-être le moment de basculement, en fait, en 2014, le moment de basculement de cette présidence Poutine, et peut-être ce qui change même dans sa popularité, en fait.
Oui, tout à fait, parce que il cesse d'être un président ordinaire, un président comme les autres, parce que lui, il a cette Crimée. La Crimée qu'il a rajoutée à la Fédération de Russie.
Qu'il a
la
rendu, Crimée, même
il
dans
a
son
rendu,
esprit.
C'est un cadeau de ce. Il demandait à des gens qui lui parlaient, il demandait avec quoi je vais rester dans l'histoire. C'est je ne sais pas avec quelques réformes. Mais non, il faut quelque chose de plus important et ça a été.
Et on y va tout de suite, grâce à vous, Claude.
En plein centre de Simferopol, la capitale de la Crimée, il y a un portrait géant de Vladimir Poutine en tenue militaire noire, peint à même la façade d'un immeuble, avec cette citation du président russe en lettres rouges sur fond gris « La Crimée est notre patrimoine commun ». À deux pas de là, Émile, 77 ans, militaire en retraite de l'armée soviétique, arrondit ses fins de mois en jouant de l'accordéon pour les passants. Émile bénit ce temps nouveau qui a vu la Crimée revenir enfin, dit-il, dans le giron de sa chère Russie.
Maintenant, c'est bien mieux. Déjà, il n'y a plus la guerre. Je touche une pension. Bon, du temps de l'Ukraine, je recevais 3 000 roubles par mois. Et aujourd'hui, j'ai 10 000 roubles. À l'époque, ma pension ukrainienne, c'était catastrophique. Maintenant, ça me suffit. Pensez que le propre fils de Khrushchev racontait « Mon père a dit, j'ai offert la Crimée à l'Ukraine comme un sac de patates. »
Nous quittons la zone piétonne de Simferopol pour la vieille ville et ses ruelles défoncées. C'est là, dans sa mosquée, que nous accueille Raïm Gafarov, un jeune trentenaire, nouvel imam du quartier. Juste avant la prière, il nous dit également combien le rattachement de la Crimée à la Russie a été positif, selon lui, pour la communauté tatare, forte de 350 000 personnes dans toute la péninsule.
Гафаров Раим. Я сейчас имам Симферопольского района.
Moi, je ne suis pas politicien. Je ne peux vous parler que de l'aspect religieux, des changements spirituels. Ça faisait très longtemps que l'on attendait la construction d'une grande mosquée. Et là, ça vient de commencer. Écoutez, du point de vue de la pratique religieuse, maintenant, on peut prier. On ne gêne personne. Et avec la construction de notre mosquée, il y a des améliorations notoires.
L'imam Gafarov ne parlera pas de ce compatriote condamné récemment à 2 ans de prison pour avoir déclaré à une télévision de Kiev qu'il fallait rendre la Crimée à l'Ukraine. Après l'intervention du gouvernement d'Ankara, la peine de prison a finalement été transformée en expulsion vers la Turquie. Nous laissons alors derrière nous Simferopol, direction l'est de la Crimée. En bordure de route, une dizaine de clients est attablée dans un restaurant tatar chez Nariman. La patronne, Sarah, d'abord souriante, se referme lorsqu'on lui demande comment va la vie depuis 2014.
Je ne veux pas parler. Excusez-moi, je ne veux pas répondre à une interview là-dessus.
Et on va y retourner dans un instant en Crimée pour la suite de votre reportage, Claude Brouillot. Clémentine Fauconnier, est-ce que cette histoire de Crimée a déstabilisé quand même une partie de la Russie ou au contraire, est-ce qu'elle l'a resserrée? Parce que même Navalny, dont vous parliez à l'instant, était un peu sur des œufs sur cette histoire finalement.
Oui, il y a une petite minorité de la population qui a été choquée et qui a été plutôt en désaccord avec cette annexion. Mais sinon, comme l'a dit Sergueï Moutman, la popularité de Vladimir Poutine, qui était plutôt, qui connaissait un ralentissement depuis les années 2009-2010, a à nouveau fait un bond et a gagné 20 points presque en un mois, c'est-à-dire au moment de l'annexion de la Crimée. Et donc du coup, ça a vraiment suscité un espèce de rassemblement de la population russe, là, sa très grande majorité, autour de cet événement.
Ça veut dire on attend là un nouveau référendum en quelque sorte avec cette élection-là, des chiffres qui vont crever les plafonds, en tout cas en Crimée.
En Crimée, oui, sans doute on peut s'y attendre, d'autant plus que comme c'est une région russe très jeune, on peut supposer que l'opposition a moins le temps de s'organiser que dans les autres régions où les relais locaux sont là depuis plus longtemps.
Et on verra, Claude, on va l'écouter dans un instant aussi, qu'il y a des choses qui ont été faites peut-être par Vladimir Poutine spécialement vers cette Crimée-là, vers les habitants de Crimée. C'est ce qu'on écoute tout de suite.
Une heure plus tard, nous arrivons à Féodossia, au bord de la mer Noire. Les familles pique-niquent sous le soleil, à proximité d'un kiosque près de la plage. Un groupe de retraités, tout juste descendu d'un vieil autocar, se met à danser. Galina est la meneuse du groupe. Elle parle à perdre haleine du retour généreux de la Crimée dans la Russie.
Nos retraites ont été augmentées plusieurs fois. Par exemple, le bus que vous voyez derrière, maintenant on peut le louer, se faire des sorties, s'amuser, faire la fête entre personnes âgées, grâce à tout ça. Ma sœur qui habite en Ukraine touche $50 de retraite par mois. Moi maintenant, je reçois $250. Obligatoirement, nous ici, et pas seulement moi en tant que présidente de commission, on va tous voter pour Poutine. Comprenez bien, pour toutes les grand-mères qui sont ici, Poutine, c'est un dieu.
Galina et son groupe de retraités, fans de Vladimir Poutine, montrent aussi à côté l'autoroute qui sera bientôt ouverte jusqu'à Kerch, d'où partent les ferries pour Novorossiysk, un autre grand port militaire de la mer Noire avec Sébastopol. C'est là, à Kerch, sur l'un de ses bateaux, qu'a embarqué Yevgeny, un Ukrainien de l'Ouest, parti visiter sa famille de Krasnodar. Avant 2014, Yevgeny taillait la route, comme il dit, par le Donbass, mais la guerre à Donetsk l'a obligé désormais à faire un long détour par la Crimée. Et depuis 4 ans, Yevgeny, l'Ukrainien, a vu la péninsule se transformer.
Effectivement, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui changent, mais il y a du pour et du contre. Dans le pour, dans ce qui a changé en bien, on voit que la péninsule se développe beaucoup, qu'il y a des transformations, on voit des infrastructures qui se construisent, des routes, des hôtels. Alors que dans le contre, dans ce qui ne va pas, on sent les gens plus nerveux, plus inquiets, qui se replient sur eux-mêmes, qui se replient beaucoup sur eux-mêmes. Vous comprenez ?
Bientôt, un pont géant, lui aussi en construction, finira d'amarrer la Crimée au reste de la Russie. Il transportera les hommes par la route et par le train, mais aussi les énergies, car la péninsule, depuis qu'elle a quitté l'Ukraine, manque de ressources. De retour à Simferopol, sur la route du nouvel aéroport international encore en travaux, Victor, un jeune Criméen d'une 20aine d'années, formé au management, se confie.
Ce qui est important, c'est de savoir vers quel marché tu veux orienter tes affaires. Si tu t'intéresses au marché russe, c'est une chose. En revanche, si tu veux travailler avec des compagnies occidentales, là maintenant, on a des difficultés. Soit se résigner face à la situation, soit s'adapter à la situation, soit s'en aller. Dans mon cas, je pense que je vais partir. Quand tu sais que tu pourrais faire plus, mais que finalement tu es limité, et qu'à cause de ça, tu ne peux pas faire ce que tu voudrais, toute cette situation finit par être très bizarre. Je ne pense pas que j'irai voter. Je n'irai pas. Je ne ressens pas ça comme mon devoir d'aller voter.
Victor sait bien que beaucoup de Criméens ne pensent pas comme lui, mais il reste convaincu que son avenir s'écrira ailleurs que dans cette Crimée russe, quitte à laisser à d'autres le soin de veiller sur le patrimoine commun.
Sergueï Moutman, est-ce qu'il y en a beaucoup, selon vous, comme ce jeune homme qu'on vient d'entendre, dont j'ai oublié le prénom, des gens qui vont faire le choix de partir, de la quitter, cette Crimée? C'est marginal, ce qu'on entend?
Il faut avoir des statistiques, mais je ne pense pas que ce soit marginal, parce que la Russie est venue en Crimée avec toutes les particularités des affaires russes, et avec aussi cette situation d'un certain isolement international. Après la conquête de la Crimée, après l'annexion de la Crimée. Et c'est une situation très difficile pour les gens, parce que c'est être en périphérie, une sorte de périphérie de province russe, et être le bout du monde de la Russie, et pas un centre de l'Europe comme ça a été, avec toutes les difficultés à l'époque ukrainienne. Parce qu'on était très mécontents, on parlait beaucoup, mais les gens sont toujours mécontents. Il y avait les Ukrainiens, les Tatars qui étaient coupables de tout, et aussi la flotte russe qui était coupable de tout à Sébastopol. On parlait de n'importe quoi, il y avait des mouvements. Mais c'était de la vie, je dirais, de la vie plutôt qui avait une perspective.
Mais ça veut dire que c'est une péninsule qui est condamnée à être perfusée économiquement par la Russie, mais qui ne saura pas se développer seule, en fait, désormais, qu'elle est tournée donc de l'autre côté, plus tournée vers l'Europe.
Je pense que non. Elle ne saura pas le faire. La Crimée, avec ses propres gens d'affaires, avec son propre business, ses hôtels, routes et tout ce qui est industrie de tourisme. Mmh. Non, c'est parce que c'est la Russie qui est venue, avec tout ce qui est caractéristique de la Russie de Poutine, avec ses compagnies gigantesques qui couvrent tout, qui étouffent les petites affaires, etc., les petits établissements.
Et ça veut dire aussi que, c'est ce qu'on entendait aussi dans le reportage de Claude, il y a une Russie volontairement généreuse en ce moment vers la Crimée, qui donne de l'argent en ce moment aux gens en Crimée.
Bien sûr.
Ça veut dire qu'il fait meilleur être un Russe en Crimée aujourd'hui qu'un Russe à Moscou, en gros, ou pas ?
Oui, pour le moment, oui, peut-être. C'était évident. Et il y avait des spécialistes, qui analysaient la situation et qui disaient en 2014 que ça coûterait beaucoup, énormément plus cher qu'on ne le disait à l'époque, énormément plus cher. Et maintenant, la Russie montre que c'est un pays avec un potentiel économique extraordinaire. Mais où est tout l'argent? Tout cet argent? En Crimée, peut-être. En Crimée pour les routes et peut-être pour les gens. Parce que c'est joué sur les cours des devises, les cours des devises, la grivna ukrainienne, le rouble russe, et de là, parce que tous les chiffres que j'ai entendus dans le reportage, ce sont des spéculations. Mm-hmm. Parce que le dollar d'il y a 4 ans, c'est pas le dollar d'aujourd'hui, etc. Et la grivna, c'est différent.
Et en même temps, ce qu'on entend, pour l'instant, Clémentine Fauconnier, c'est heureux comme un Russe en Crimée, en fait.
Oui, parce qu'il y a aussi un très grand investissement. C'est d'une certaine façon la vitrine, puisque c'est le principal succès récent de Vladimir Poutine et peut-être son principal succès, ce que
c'est
l'histoire
tout court,
retiendra.
D'ailleurs. Pardon. Peut-être tout court d'ailleurs.
Voilà, c'est ce que l'histoire retiendra peut-être. Et donc du coup, il y a tout est mis en œuvre pour que ce soit vraiment une vitrine.
Vous nous parliez de vos étudiants tout à l'heure, justement précisément sur ce sujet-là, par exemple. Qu'est-ce qu'ils disent là-dessus?
C'était très partagé. Une partie d'entre eux, disait que malheureusement, du coup, ils s'étaient encore plus mis l'Occident à dos, alors que eux-mêmes, c'est des étudiants qui viennent au collège universitaire français, qui parlent français, qui veulent partir en France pour certains, donc qui étaient évidemment, qui avaient l'impression que ça allait encore approfondir l'espace entre la France, les pays occidentaux et la Russie. Mais pour certains, et même pas forcément ceux qui étaient particulièrement pro-Poutine, il y avait quand même l'idée d'une forme de fierté aussi, de montrer d'une certaine façon sur la scène internationale la force de la Russie et sa capacité à se défendre ou à défendre ce qu'elle estime être ses intérêts stratégiques.
Alors je voudrais quand même qu'on parle de cette opposition dont on parle finalement peu, parce que quelle place prend-elle dans cette élection, peut-être un peu perdue. D'abord, Sergueï Bounpan, pourquoi est-ce qu'on a vu personne dans les rues cette année, contrairement à 2012, ou très peu?
Parce que c'est le mouvement de 2011, 2012, 2013, etc. Ce mouvement a été, je dirais, liquidé. Parce que après le cas de la dernière manifestation grandiose de l'inauguration, le temps de l'inauguration précédente de Poutine, après les arrestations étaient faites très savamment. Parce qu'il y avait c'était pas des organisateurs ou bien des extrémistes, etc. C'était les représentants de différentes couches et de différents âges. Et parce que c'est un signe à tout le monde que on peut être tout à fait paisible, on peut avoir 70 ans ou bien 15 ans. On ne peut pas être épargné si on participe à ce genre de manifestation. C'est une intimidation évidente, et c'était En miniature, c'était l'idéologie des représailles de Staline. Parce que là-bas, tout était irrationnel, on pouvait ne rien faire, on pouvait organiser un coup d'État contre l'Union soviétique, et le résultat était tout à fait pareil.
Mais donc c'est la peur, ou c'est se dire, de toute façon, ça sert à rien. Qu'est-ce qui parle le plus fort là-dedans?
Je pense que c'est une sorte de fatigue, fatigue civique, si on peut le dire. C'est un dégoût, et la fatigue, un peu, c'est avec les mouvements de Navalny, c'est entrée, c'est défilé dans les rues, etc. Ça a pris un nouveau souffle, mais pas dans la même mesure qu'il y a 5 ou 6 ans.
Clémentine Fauconnier, Navalny, est-ce que ça reste la figure de l'opposition finalement, mais faute d'en avoir d'autres, ou est-ce qu'il représente vraiment quelque chose d'important ?
À mon sens, il représente quelque chose d'important, déjà parce que c'est le premier, depuis l'arrivée de Poutine au pouvoir, qui cristallise vraiment une certaine partie de la population russe, et qui arrive surtout à cristalliser le mécontentement d'une partie de la population, notamment des jeunes.
Voilà. Mais le premier est le seul aussi, en fait. Voilà.
Donc, qui arrive aussi intelligemment à organiser différentes formes de manifestations, que ce soit dans les rues, dans les médias, sur Internet, etc.
Sergueï Boutman, vous faites non avec la tête. Pas le seul,
donc, pardon. Non, il n'est pas le seul, il veut être le seul.
C'est peut-être ça son talon d'Achille, alors.
Peut-être, oui. Et il y a d'autres gens. Par exemple, Dmitri Gudkov, qui est avec Ksenia Sobchak, vient de former un nouveau parti politique. Dmitri Gudkov était très populaire parmi les jeunes et parmi les écoliers aussi, et les jeunes étudiants. Mais il y a une certaine... Je pense que Navalny est quelqu'un de très courageux, très charismatique, c'est vrai. Mais je méfie beaucoup de ce mouvement de boycottage, de cette grève des lecteurs. Parce que, comme on dit très souvent, il ne faut pas casser le thermomètre. Parce que Moscou, c'est le thermomètre des élections. Et si à Moscou, on vote Sobchak ou Yavlinsky ou quelqu'un d'autre, c'est Poutine qui n'a jamais reçu ses 50% à Moscou. Il pourra avoir ses 50% et plus avec la grève des électeurs.
Restons justement sur cette grève des électeurs et sur Alexeï Navalny. Nous avons rencontré, c'était au QG d'ailleurs d'Alexandre Navalny, donc très très beau building, très bel hôtel, très neuf, surtout dans le studio télé qui est le leur, puisqu'il y a une télé qui est mise sur YouTube. C'est tous les jeudis pour Alexeï Navalny. Voici Ivan Jdanov et on se retrouve juste après.
Nous sommes au studio Navalny Live, c'est notre chaîne sur le YouTube, d'où nous émettons tous les jeudis. Alexeï Navalny lance son émission 20-18. On ne nous laisse pas entrer à la télévision. On ne parle pas de nous au niveau fédéral, donc nous sommes obligés de créer notre propre télévision. Vous voyez les caméras. Relais.
Est-ce qu'en ce moment, à l'approche de l'élection, il y a de plus en plus de gens qui vous regardent? Est-ce que vous le sentez, ça, ou pas?
On n'appelle pas ça les élections, parce que les élections sans le concurrent principal ne peuvent pas être qualifiées d'élections au sens classique. C'est un événement politique, le pouvoir, c'est un devoir rituel à remplir. Bien sûr, on éprouve de la tension qui naît, parce qu'il n'y a pas de choix. Les gens voudraient bien s'affirmer, on sent bien ce mécontentement sourd qui croît, l'attention envers les différentes forces politiques, y compris pour nous.
On a vu d'ailleurs à l'entrée les badges sur lesquels il est écrit « sans moi ». Est-ce qu'elle marche, cette campagne de boycott? Est-ce que vous avez le sentiment qu'elle est très suivie?
C'est la grève des électeurs, c'est notre propagande que nous diffusons, et sur les 70 états-majors disséminés sur la Russie, il n'y a pas que des badges, il y a aussi des bouclettes, il y a des tracts.
À combien vous évalueriez votre victoire? C'est-à-dire que à quel taux d'abstention vous vous direz « c'est une victoire pour nous »
Le pouvoir bien sûr, à fixer des repères. Le candidat principal doit vaincre, de remporter les élections avec la présentation de 70% et 70% de voix pour. Donc, si nous influençons sur la présentation au bureau de vote, au niveau de 20%, ce sera, le résultat sera très substantiel, mais on verra le résultat.
Comment vous expliquez, cela dit, puisque vous dites qu'il y a beaucoup de gens qui vont participer à ce boycott, que cette campagne, elle fonctionne, comment expliquer que cette année, il n'y a pas eu de manifestation du tout par rapport à ce qui s'est passé en 2012 ?
Là, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que jamais auparavant, dans la Fédération de Russie, depuis les années 90, il n'y a pas eu de rassemblement de masse analogue à celui du 26 mars 2017. En général, dans les régions, on pense que les régions sont apolitiques, c'est le calme plat et qu'on ne peut rien organiser là-bas. Et là, nous avons vu 5 000, là, ailleurs, 10 000. C'était du jamais vu. C'est sans précédent. On ne peut pas contester que Poutine a bénéficié d'une adhésion très large, mais il ne faut pas surestimer ça, parce que si nous regardons n'importe quel régime autoritaire, comme la Turquie voisine, le Kazakhstan, la Biélorussie, là, ce sera pareil. Ces codes de popularité, en fait, ne disent rien. Oui, on a le sentiment que la majorité est derrière Poutine, mais comme la télévision nous est inaccessible, les journaux sont sans dans ces conditions, on peut dessiner n'importe quelle cote de popularité, ce qu'ils sont en train de faire.
Ivan Zhdanov, les gens qui disent « Poutine, c'est la stabilité, et c'est pour ça qu'on va voter pour Vladimir Poutine. Sans lui, c'est le chaos, c'est l'instabilité. » Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là ?
Nous répondons.
Regardez ce qui entoure Poutine et qui est Poutine.
Poutine a porté au pouvoir des individus qui étaient ses amis,
15 ans, qui sont devenus les personnes les plus riches de la Russie et souvent du monde.
Regardez comment vit le citoyen lambda avec un salaire de 20 000 roubles par mois, un citoyen ordinaire. Peut-il continuer à vivre dans la pauvreté ?
Et nous le disons constamment.
Qu'est-ce qui se passe dimanche pour Alexeï Navalny ?
Nous avons organisé ici une émission depuis ce studio. Je ne peux pas vous révéler tous les secrets de cette antenne, mais nous avons des projets pour dimanche.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Voilà, c'est aussi l'avocat de Navalny, hein, Ivan Zhdanov, c'est important de le préciser. Clémentine Fauconnier, chaque abstention n'est pas un vote pour Navalny, évidemment. Non. Mais est-ce qu'il fait peur quand même au Kremlin, cet homme-là, au point d'être empêché de se présenter, donc ?
Oui, il me semble qu'il fait peur. C'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure et que j'incitais sur sa personnalité, même si évidemment il y en a d'autres maintenant qui sont en train, enfin qui émergent et qui sont dans le paysage quand même depuis longtemps. C'est que quand même en 2011, quand il y a eu ces manifestations assez inattendues juste après les législatives, lui depuis plusieurs mois déjà sur son site, à la radio, appelait à ne pas aller voter. Il avait fait toute une campagne qui était très cohérente en disant. C'était législatif, donc un scrutin proportionnel. Aller voter pour n'importe quelle partie de l'opposition parlementaire pour faire perdre sa majorité constitutionnelle à Russie Unie, et ça avait marché. Mmh. C'est la première fois que Russie Unie enregistrait un tel recul. Il avait aussi eu le sens de la formule en appelant Russie Unie, donc le parti de Poutine, le parti des escrocs et des voleurs. Et je me souviens, dans Moscou, on voyait partout des affiches, c'était extrêmement efficace, où on voyait donc des affiches en disant n'allez pas voter pour le parti des escrocs et des voleurs. En quelques jours, l'expression avait, comme on dit, fait un buzz et tout le monde en parlait. Donc c'est pour ça, de ce point de vue-là, il a quand même un talent. Il a un talent qui le distingue, à mon sens, des autres opposants.
Mais alors, il a un talent de forme, en fait. Oui. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Il sait faire le buzz, il sait créer l'événement. Voilà. Sur le fond, cependant, qu'est-ce que ça dit, Alexeï Navalny? Est-ce qu'on sait s'il y a un programme ou est-ce que c'est juste non à Poutine? Et pour l'instant, on peut se contenter de toute façon de dire non à Poutine.
Alors, c'est un petit peu ça. Et sur le fond, il est aussi assez ambigu, puisque, en tout cas, à une époque, il a quand même eu plusieurs déclarations qui allaient plutôt dans le sens, disons, d'une Russie plus patriote. patriotes, notamment en disant qu'il fallait arrêter de nourrir le Caucase, etc. Et alors, ce qui est assez intelligent, je dirais politiquement, puisqu'une partie aussi, disons, de la population très à droite, la plus patriote, n'aime pas Poutine non plus. D'ailleurs, il défile d'ailleurs souvent aux côtés des libéraux le 4 novembre. Donc, de ce point de vue-là, c'est assez intelligent, mais ça en fait un personnage qui est peut-être plus sulfureux que la façon dont on le présente parfois en France.
Claude Brouillot, le côté plus sulfureux des choses.
On a notamment, on parlait tout à l'heure de la Crimée, l'exemple de l'évolution de sa position sur la Crimée, à la différence par exemple de Ksenia Sobchak, qui est rentrée dans sa campagne en disant « la Crimée est ukrainienne ». Je peux vous dire qu'ici, dans les milieux autorisés, comme on dit, ça a fait le buzz aussi, parce que jusque-là, on n'avait pas entendu ça de la part de quelqu'un qui aspire à des responsabilités.
C'est plus courageux de dire ça, ou c'est un peu plus fou même? Je vous vois faire oui avec la tête.
Elle a précisé, c'est, d'après les lois internationales, c'est... la Crimée est ukrainienne. Elle dit, c'était très subtil, sa réponse. Mais sa réponse lui a donné un vecteur extraordinaire, à mon avis.
C'est-à-dire?
Elle a dit carrément les choses qu'il y avait beaucoup de gens qui attendaient. Et surtout les jeunes qui, et aussi, elle a dit, elle n'embrigade jamais. Il y a un danger chez Navalny, surtout cette grève des électeurs, c'est les jeunes qui, il y a énormément de jeunes qui ont peur, et ils ont raison, peur d'embrigadement. Et maintenant, il y a un slogan, et maintenant, nous sommes contre les élections, et comme a dit Navalny hier, il nous a dit à la radio, il a dit, mais dans un an, on sera pour les élections quand seront. Et c'est le mouvement des foules, pour moi, c'est assez dangereux.
Clémentine Fauconnier, c'est vrai que Sobchak semble être la candidate des jeunes, on va rappeler en un mot, la fille du maire de Saint-Pétersbourg, le maire de Saint-Pétersbourg lui-même, qui a été le mentor de Vladimir Poutine. C'est ce qui rend cette candidature un petit peu bizarre, en tout cas à nos yeux. Est-ce que ça, d'ailleurs, cette espèce de collusion, ceux qui comptent voter pour elle l'ont oublié ou fait semblant de l'oublier?
Non, ils l'ont pas oublié, ils en sont très conscients, mais comme ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'elle a des positions assez courageuses qui tranchent avec le reste de discours des autres candidats et qui font qu'elle est respectée pour ça par une certaine frange de l'électorat.
Je dis, il faut trancher dans ces cas-là, puisqu'on est opposant, il faut trancher, il faut y aller dans le vif, non, peut-être.
Ça va quand même mieux en le disant, et comme elle est très médiatisée, ce qu'elle dit du coup est très bien relayé. Ce qu'elle a dit aussi, qui a beaucoup plu, je me souviens à l'époque j'étais à Saint-Pétersbourg, c'est il y a tous des débats en ce moment sur la cathédrale Saint-Isaac. De savoir s'il faut la rendre à l'église orthodoxe ou pas. Et donc, du coup, elle a rappelé que l'État russe était un État laïque, ce qui va mieux en le disant, et ce qui a beaucoup plu, du coup, un certain nombre de représentants de cet électorat.
Claude, rapidement. Claude Brouillot.
En deux mots, Ksenia Sobchak, elle essaie de changer son image aussi. C'est la jet-set moscovite. C'est quelqu'un qui était dans des émissions de télé-réalité, et qui, aujourd'hui, joue pour le coup d'après, dans 6 ans, par exemple.
C'est ce que j'allais vous demander. Parce que est-ce que c'est crédible, réellement, cette candidature, ou est-ce que c'est une espèce de coup d'essai, ou peut-être qu'elle est beaucoup plus finaute qu'on veut bien le croire, et qu'elle est beaucoup moins la marionnette de Vladimir Poutine. Vous avez l'air d'être d'accord avec ça,
Monsieur
Boutman.
Elle est beaucoup plus intelligente. Je ne sais pas ce qu'elle va devenir après le 19 mars et après, parce qu'il y aura peut-être, si elle a un beau score, il y aura des pressions. Si elle veut continuer, il y aura des pressions beaucoup plus considérables. Ce sera sérieux. Maintenant, ce n'est pas sérieux, les pressions sur Ksenia Sobchak. Et personne ne sait, mais je crois qu'elle est beaucoup plus intelligente.
Est-ce que, puisqu'on touche à la fin de cette émission, est-ce que Vladimir Poutine est préoccupé par l'image qu'il va laisser ? Là, normalement, c'est sa dernière élection. Donc, est-ce que son héritage a un vrai sens pour lui ?
Je pense qu'il a créé son image. Et il veut que cette image reste. L'image du grand chef de sa patrie, du grand chef patriotique, de quelqu'un qui nous a rendu la Crimée, qui a rendu la grandeur, qui quelqu'un de un personnage historique.
Mais est-ce que ça
fort, etc. Son image.
Du coup, son idéologie, en fait, est-ce qu'elle est réellement lisible, Clémentine Fauconnier? On a aussi l'impression de quelqu'un qui réagit, peut-être de son point de vue intelligemment à chaque fois du point de vue russe, mais réagit à l'événement. En fait, est-ce qu'il y a vraiment une ligne, une idéologie, quelque chose qui pourrait définir, j'allais dire une doctrine, tiens, comme disent les Américains, une doctrine de Vladimir Poutine?
Alors, l'un des termes qui revient souvent, en tout cas dans son entourage, et notamment pour le parti Russie Unie qu'il soutient, c'est le centrisme et le conservatisme, et avec une définition du conservatisme qui est garder tout ce qui doit être gardé et ne pas garder tout ce qui ne doit pas être gardé. Voilà. En gros, c'est donc...
Vous avez 2 heures.
Voilà. C'est-à-dire, en gros, arriver à faire en sorte que l'histoire russe se poursuive de façon sereine, en arrêtant les révolutions tous les 20 ans qui mettent donc la population dans des situations extrêmement difficiles. Voilà. Donc, en gros, et les deux mots-clés, c'est centrisme et conservatisme.
Et ben voilà, ce sera aussi les deux mots de la fin, centrisme et conservatisme. Merci beaucoup, merci à tous. Je ne vous quitte pas sans remercier aussi Alestania Vokron, sans remercier Alexandre Weitzman pour les traductions, mais pas seulement, pour leur connaissance aussi, pour la passion de leur pays. Merci à Mélissa Dolman, merci à Fabrice Legge, merci à toute l'équipe technique. Et en face de moi, c'est Marcos Daras et Kevin Pello qui sont aux manettes ce soir. Et c'est Nico Mathias qui est à la vidéo. Demain, c'est l'ami Nicolas Demorand qui sera à la même place pour un 7-9 spécial d'Asvinania, comme on dit ici. Portez-vous bien.